Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout premier épisode d'Affiché, le nouveau podcast Mademoiselle dans lequel on parle des femmes en haut, en bas et même derrière l'affiche des films et des séries. Je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle, rédactrice pour les rubriques cinéma et séries, et je serai aussi votre hôtesse dans Affiché. Comme on entame le mois de décembre, que les jours sont gris, mais qu'une odeur de pain d'épices pointe le bout de son nez et qu'on a envie de se réfugier dans des films et des séries doudous, je vous propose de lancer le tout premier épisode de débat d'Affiché sur les téléfilms de Noël. Les téléfilms de Noël, ce sont ces Hallmark Movies qui poussent partout sur M6 et Netflix comme des pleurotes dès le 1er novembre et qui nous lassent de leur sexisme affligeant. Et pourtant, sous un plaid au coin du feu, parfois, on se laisse tenter pour mi-hate watch, mi-kiffer une histoire d'amour bancale, romanesque, cliché, sur fond de sexisme absolu. Alors pourquoi regarde-t-on des téléfilms de Noël ultra sexistes en tant que féministe ? C'est la grande question du débat d'aujourd'hui. Pour y répondre, je me suis entourée des plus grandes spécialistes de la question, Pauline Machado, Anaïs Delcroix et Manon Portanier, qui m'ont rejointe dans le studio de tournage de la rédaction de Mademoiselle. On a tout installé là, on est à la rédac, y a des chocolats, il y a un sapin, on est cosy, y a même une invitée qui porte un pull de Noël, donc ça c'est un très très bon point. Est-ce que vous pourriez vous présenter en nous donnant, je sais pas, vous nous dites un peu qui vous êtes et vous nous donnez votre pire plaisir coupable de téléfilm de Noël et puis nous on va vous juger de fou.
Moi c'est Manon, je suis rédac chef adjointe chez Rocky et je crois qu'à mon actif je dois avoir à peu près 157 films de Noël matés ces 15 dernières années, ce qui fait un bon score et ce qui est franchement flippant en fait, quand on y repense, parce que c'est pas normal, je crois, une telle consommation. Et mon petit plaisir coupable, je pense que c'est, c'est de savoir dès les 3 premières minutes quelle va être la fin du film que je vais voir, parce que forcément on sait tout de suite ce qui va se passer à la fin, ce qui va se passer. C'est que la meuf va tout plaquer pour le mec qui, lui, était très très bien dans sa vie à la base, mais qui préfère que la meuf vienne à lui, elle va s'épanouir, elle va avoir des enfants, elle va comprendre que, grâce à ça, sa vie a un sens. Et autant ça peut m'énerver, autant je trouve ça génial. Parce que ça me rappelle juste que c'est exactement ce que je veux pas. C'est exactement ce que je veux pas, mais j'ai besoin de regarder. Je sais pas pourquoi, c'est un peu comme un film d'horreur, ça me fait flipper, j'ai envie de voir après, c'est trop bien.
Ainsi commence ton analyse du
bonjour.
Merci Manon. Pauline, est-ce que tu peux te présenter ?
Moi, je suis Pauline Machado, je suis journaliste, féministe et effectivement grande accro des films de Noël et principalement des téléfilms de Noël hein, qui sont deux genres assez différents.
Ouais.
Les Hallmark Movies, c'est ma marque de fabrique et je pense que j'égale à peu près le record de Manon.
Waouh !
Ouais,
voilà. On a vraiment des gros spécialistes quand même aujourd'hui.
D'ailleurs, donnez-moi un titre et je sais ce qui se passe dedans, donc c'est
assez
flippant. Non, en fait, mon plaisir coupable, c'est ceux qui ont dans le casting tous les acteurs déchus d'Hollywood, type tout le casting de Lolita Malgré Moi, Leslie Chabert étant l'une des stars des Hallmark Movies, ou peut-être Lifetime, l'un des deux. Et c'est un peu comme un bonbon, en fait. Je sais que c'est pas forcément hyper bon tout ce qu'il y a dedans, mais en fait, ça me fait du bien et j'adore ça. Donc voilà.
Ok, c'est acceptable. Merci beaucoup, Pauline. Et toi, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Bonjour, alors moi je suis Anaïs Delcroix, j'étais journaliste et j'ai tout quitté pour avoir une boutique en ligne d'objets vintage, très kitsch.
Trop bien.
J'adore les téléfilms de Noël aussi, j'ai commencé le 1er novembre sans honte aucune.
Non, bah non, bien sûr.
C'est-à-dire qu'à la première sortie et première remise en avant sur Netflix des téléfilms, j'ai regardé quasiment tout ce qui se passait. Et comme vous disiez, les filles, moi, j'adore aussi quand il y a des vieilles gloires de la télé, notamment Lacey Chabert. Il y a Jonathan Bennett de Mean Girls aussi, qui est dans un des derniers téléfilms Netflix. Et j'adore aussi ceux avec Dean Cain de Lois et Clark.
Waouh.
Et d'ailleurs, il y en a un avec Dean Cain et Melissa Joan Hart de Sabrina la sorcière.
Mais oui, exact.
Oui,
ce combo parfait.
Broadcast Christmas, il est sur Netflix en ce moment et c'est un des moins pires.
Ok.
Et oui. J'ai une grosse fascination malsaine pour les téléfilms de Noël parce que effectivement, c'est sexiste en diable. Il y a quasiment rien qui va. C'est ça en fait. C'est toujours la business woman à qui on explique qu'elle avait oublié que la vraie vie c'était d'habiter en Laponie. Avec des elfes et un homme cis hétéro.
C'est blanc, très blanc, blanc, très blanc. Oui.
Et ben justement, tu parlais de Netflix. Je vais vous lancer un peu le débat en partant d'un film à l'affiche de Netflix depuis le 28 octobre qui s'appelle Holy Date. Du coup, c'était la première pleurote de la saison. Mais dès les premières minutes, on se rend compte que c'est pas une pleurote. En fait, c'est une sorte d'amanite, un gros champignon rouge avec des points super blancs qui nous hurle. Ne continuez pas de regarder, c'est de la merde absolue. Et pourtant, on va jusqu'à la fin.
Et pourtant, j'ai
c'est l'histoire de Sloane, qui est interprétée par Emma Roberts, qui vient de se faire têche et qui n'en peut plus de se faire rappeler qu'elle est seule à chaque fête de famille. Voilà, comme tous les célibataires, j'ai l'impression. Elle décide alors de dater Jackson, qui est joué par Luke Bracey, avec un classique accent australien pour faire sexy, entre guillemets, comme d'hab. Dans tous les films de Noël, ils ont forcément des accents british ou australiens, tu vois. Irlandais, enfin voilà. Et à chaque fête du calendrier, donc Noël, Pâques, etc., elle le date, elle le ramène en famille ou juste ils passent un moment ensemble et lui fait de même. Et on les suit pendant un an et c'est la plus longue rotation de la planète à laquelle vous assisterez jamais, puisque tout y est, la stigmatisation des célibataires, le stéréotype de la cougar, de la tata cougar intenable là au début, le meilleur pote noir pour faire genre rempli des quotas, le concept tout pourri du holy date qui finit bien sûr en grand amour. Bref, ça me donne un peu la gerbasse, mais vous aussi, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a qui n'ont même pas terminé le film, tellement c'était affligeant.
Ouais. Moi, je l'ai regardé jusqu'au bout, mais je vais pas vous mentir, j'ai regardé d'un œil entre un taf et une poêlée de pâtes, parce que c'est chiant, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un bon concept qui est que ils veulent justement parler de cette stigmatisation. De la personne qui n'est pas en couple à Noël, c'est toujours ce qui revient et ce qui te pèse un peu quand tu rentres chez toi et que t'es une fille hétéro et que t'as pas de copain. Et donc y a cette tante un peu dont on se moque en fait, un peu gênante, qui est là avec un mec dont elle se contrefout et qui a dit j'ai ramené quelqu'un. Donc ils veulent se moquer et au final je trouve que ça tourne un peu en rond parce qu'elle a quand même ramené quelqu'un. Ouais. Elle a pas dit en fait j'ai pas de date en ce moment et je m'en fous. Donc il y a une contradiction en fait là-dedans.
Ouais, exactement. Et moi je l'ai regardée avec ma coloc et je me suis dit c'est fou parce que elle arrête pas de dire qu'elle est très heureuse célibataire et pourtant elle ne l'est pas et ça se voit et en fait comme si en fait c'était impossible d'être heureuse et d'être célib. C'est super bizarre.
Bah ouais c'est ça et en fait ce qui est vraiment agaçant c'est qu'en 2020 on a encore ce truc de effectivement, la célibataire, son seul et unique but, ça va être de trouver quelqu'un pour venir à la soirée de Noël sans que tout le monde se foute de sa gueule ou que la mette à la table des enfants, parce que c'est le grand truc aussi.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est quelque chose, cette pression sociale, elle existe, enfin, c'est clair. Mais justement, comme tu disais, Anaïs, pourquoi pas s'en emparer différemment et justement en disant, non, en fait... Soit ce mec, Jackson, il va servir effectivement à montrer à ma famille que c'est ridicule de me foutre la pression comme ça. Mais mon Dieu, ce truc qu'on voit arriver comme une énorme amanite. Enfin, c'est lent, c'est chiant. Moi, je l'ai regardé en deux fois. C'est déjà que ça se passe pas exclusivement à Noël. Déjà, ça m'a saoulé.
Mais oui, mais moi, j'ai pas
ça,
compris.
C'est la trahison.
Puis c'est quoi ces fêtes? Genre, tous les Américains, ils font le Dias de los Muertos.
Oui, le Cinco de Mayo et tout. J'étais là, stop.
Et il y a Pâques aussi. Hein.
Oui, voilà. Et puis la fête des mères, genre, enfin.
Ouais. Non, mais comme si t'avais besoin de ramener un date à la fête des mères.
Bah voilà, tu vois.
Moi, je comprends pas.
Moi, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai été déçue. J'avais beaucoup d'espoir, en fait, pour ce film. Mais genre, les 10 premières minutes, je me suis dit, c'est cool, elle écrase sa clope sur un Père Noël, elle se met d'elle-même à la table des enfants, elle est bourrée à 20h10. Je me dis, ok, cool, ça peut être sympa. La tante, elle est marrante. Enfin, il y avait un truc, je me disais, ok, peut-être que cette fois, ça va être différent. Peut-être qu'elle va envoyer bouler tout le monde. J'en sais rien. Et en fait, bah non, c'est comme d'habitude. Finalement, elle était célibataire, mais c'était pas parce qu'elle le voulait vraiment. Elle était célibataire parce qu'elle n'osait pas ouvrir son cœur aux autres. Et j'en ai ras le bol, en fait. Ouais. Arrêtez un peu. Arrêtez d'imposer des schémas comme ça. Elle pouvait très bien rester toute seule ou j'en sais rien. Pourquoi toujours s'acharner à vouloir ramener quelqu'un? C'est nul. Nul.
C'est
scandaleux.
C'est exactement ça. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un peu une petite typologie des thématiques sexistes dans, qui reviennent toujours, selon vous, dans les téléfilms de Noël? Alors, est-ce que vous avez deux, trois grosses...
Bah, t'as le classique, ce que tu disais tout à l'heure, il me semble, Manon, de... puis même toi, de toute façon, c'est le truc qui revient tout le temps, de « je suis une businesswoman accomplie, mais je suis hyper carriériste », et de manière péjorative, hein, parce que forcément, une femme qui travaille trop, c'est
bien sûr
pas bien vu.
Quelle idée.
Rester à la maison.
Dans la cuisine.
Et qui va, pour une raison obscure, genre, je sais pas, son père s'est cassé la main dans la pâtisserie familiale, va devoir retourner dans son village natal, et là, elle va tomber sur son amour de jeunesse, qui doit être paysagiste ou un truc comme ça.
Exactement. Et souvent, elle a une sœur ou un frère qui a déjà une famille avec des enfants.
Ça, c'est clair.
Et ils sont tous épanouis et ils sont là. Et pourquoi tu reviens pas pour nous aider ou tu serais plus heureuse ici avec nous?
Regarde, le vrai bonheur, c'est en famille, en fait. C'est ça qui manque à ton cœur et à ta vie pour être épanouie.
Mmh. Comme si, en fait, les femmes ne pouvaient pas être accomplies et au travail et heureuse en amour, quoi.
Bah, c'est ça, et comme si elle pouvait pas juste décider de pas être heureuse en amour et que ce soit pas un... que ce soit pas quelque chose qui les comble, quoi. Enfin, c'est ça qui est vraiment affligeant. Et pourtant, 157 films.
Ah, ouais. C'est ça qui est fou, hein. Tu crois qu'on se fait du mal un peu? Je sais pas, hein, je comprends pas cette manie. J'essaie de m'analyser, mais j'irai pas.
J'essaie de m'analyser.
C'est peut-être un peu la suite logique des contes de fées, en fait. En fait, on nous lave le cerveau avec des schémas millénaire et traditionnel, un papa, une maman qui est très classique en fait, qui est pas moderne et qui est complètement boring. Là, il y a un téléfilm sur Netflix, ben avec le beau gosse de Mean Girls. En fait, Jonathan Bennett, il est gay dans la vraie vie. Là, dans le film, ça se voit dès le début comme le nez au milieu de la figure. C'est vraiment, ça transparaît et là, son love interest, l'héroïne. Il y a aucune alchimie entre eux, vraiment.
Ouais, c'est clair.
Y a rien qui va. D'ailleurs, ils s'embrassent pas ou du bout des lèvres un tout petit peu à la fin. Et surtout, mais pourquoi, d'autant plus que lui, il est gay, donnez-nous des héros et des héroïnes gays dans les téléfilms de Noël. Pourquoi il y en a pas, en fait?
C'est clair.
À ce sujet, tu vois, Hallmark, justement, ils ont été... Enfin, c'est clairement une boîte assez conservatrice.
Oui.
Ils ont été épinglés, je crois, l'année dernière, pour avoir censuré une pub où il y avait deux femmes qui s'embrassaient en taxant ça de PDA, enfin... démonstration d'affection en public, alors que dans tous leurs films, en fait, tout le monde se...
Oui, c'est clair, tout le monde se pécho.
Mais tout le monde se pécho à la fin. et là, justement, il y a Jonathan Bennett, il a fait une interview parce qu'un des prochains films qu'il va faire, alors je ne sais pas si c'est Lifetime ou Hallmark, il dit lui-même, quand j'ai demandé à mon agente qui va faire mon love interest, et l'agente a répondu, bah, c'est Jake. Et genre, il disait, mais c'est génial, en fait, je suis ouvertement gay et c'est la première fois de ma carrière que je vais jouer un film de Noël et c'est une histoire avec un mec et c'est l'histoire centrale, c'est pas le frère, qui est histoire de mettre un peu d'inclusivité.
Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu sur
ça change, mais
fond de...
un film sur combien, quoi. Mm-hmm. C'est ça le truc.
Mais il y en a un autre avec Kristen Stewart qui va sortir
tout
le 25 novembre sur Hulu. Donc ça fait du bien. En fait, j'étais super énervée après avoir vu celui-là et en me disant, mais enfin, c'est quand même pas possible. Ça se voit qu'il n'y a rien qui va. Et juste après, j'ai vu la bande-annonce de celui-là sur Facebook et je me suis dit, ah bah c'est génial, ça va peut-être réparer un peu cet affront. Ben, ça reste qu'un seul film sur cet océan de films, un papa et une maman,
c'est clair.
C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien.
Mais aussi, je crois que la critique qui est faite un peu sur Happiest Season, c'est que du coup, c'est encore un énième film où au centre, donc on a une intrigue LGBT et c'est une histoire de coming out. Donc elle a caché à ses parents et en fait il y a la communauté LGBT qui était là, en fait on en a marre d'avoir toujours des intrigues autour du coming out, on a plein d'autres choses à raconter, laissez-nous faire.
Il se passe d'autres choses dans nos vies, en fait.
Il se passe d'autres choses dans nos vies. Non mais c'est vrai que les Hallmark movies c'est hétéronormé, mais genre c'est à fond les ballons, quoi.
Et il paraît qu'il y a même eu une espèce de clause Alors, je me rappelle plus exactement dans quel article j'ai vu ça. Comme quoi, les couples mixtes, c'était pas possible d'avoir une histoire avec des couples mixtes s'il fallait que ce soit de noir, de blanc. Mais, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible qu'une noire et un blanc soient en couple.
Bon, maintenant, il y a La Princesse de Chicago, heureusement.
Ouais.
Grand best-seller.
Mais c'est sur Netflix.
C'est sur Netflix. Il y a le 2 qui arrive là.
C'est Vanessa Hudgens.
Ouais, c'est ça.
Mais alors, il est pas bien celui-là. Oh, non.
C'est terrible.
J'ai vraiment eu du mal. Hein. C'est vraiment un des pires.
Ah là là, c'est.
Il est vraiment très 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 mauvais. Il y a un problème de scénario, de rythme, de jeu même.
Mais il y a même des faux raccords. Non, c'est catastrophique. Mais il est génial parce qu'il est catastrophique.
C'est tellement mal joué. Mais
c'est est-ce que c'est celui où il y a genre la princesse,
oui,
et qui a en plus un accent britannique
horrible de l'enfer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais c'est juste, c'est même pas, tu sais, il y a des films mauvais où t'es content de les voir, genre des navets dans l'enfer, mais finalement c'est tellement mauvais que c'est bien, genre Point Break, tu vois.
Oui, ça c'est tout le truc autour des nanars où en fait les films sont tellement mauvais que ça devient un peu culte, quoi, tellement c'est naze.
Mais là c'est vraiment naze, moi je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'adore. C'est clair.
On
a Manon.
Mais t'adores
qui...
quand même.
Ah, mais plus c'est naze, plus j'aime, en fait. Mais c'est en ça que j'ai dit qu'il faut vraiment que je m'analyse à un moment. Hein. C'est étrange, tout ça. Mais il est nul. J'ai dit, il a plein de faux raccords. Les jeux sont nuls. Le scénar est nul. Tout est nul. Et pourtant, je reste bloquée. Je vais voir le 2 et je serai trop contente. Je sais pas. C'est aussi le but du film de Noël. C'est que tu sais que t'attends pas grand-chose, que tu vas être déçue et...
Et ça fait plaisir d'être déçue.
Mais c'est ça. C'est ça.
En fait, non, mais, ouais, mais après, j'ai l'impression aussi ce que tu disais par rapport aux contes de Noël, enfin, aux contes d'enfance, aux contes de fées. On en retrouve souvent dans les films Netflix, en tout cas, là, Christmas Prince, tout ça, c'est des histoires de princes et princesses, comme s'il fallait continuer de nous raconter des histoires. Bah comme Cendrillon, quoi, mais avec des gens qui jouent.
Avec des vrais gens et pas des dessins.
Voilà. Et plutôt mal, ouais. Et ça peut être un critère, ouais, qui joue mal, mais enfin, dans le cas de Vanessa Hudgens, je trouve que c'est vraiment surjoué horriblement. Et Christmas Prince, ben, le premier, tu vois, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé qu'il remplissait son rôle de rythme, de scénario, de gens, même s'il y a des choses, voilà, on voit arriver le truc à 1000 km. Le 2, déjà, il est moins bien. Et le 3, c'est la cata. Le 3, c'est l'accouchement. Il n'y a rien qui va. Il y a mille intrigues infernales. Et on en revient toujours à cette obligation de maternité, ouais, de femmes. Des femmes, il y a cette injonction, j'ai l'impression, sans cesse, quoi. Bah, le premier, c'est la rencontre. Le deuxième, c'est le mariage. Et le troisième, ah, bah, elle est enceinte. Et puis, en fait, dans le premier, elle est journaliste. Et donc, elle vient là faire son enquête et elle s'incruste au palais. Et là, dans le troisième, au tout début, tu la vois écrire sur son blog. Et donc, moi, le truc qui m'a fait réfléchir, c'est « Ah bah d'accord, bon bah voilà, elle fait un petit blog à la maison. On la montre, ouais, avec son ventre en train de faire son blog à la maison. Et puis bah voilà, comme si elle avait abandonné
Oui, parce qu'au début, en tout cas, elle veut devenir journaliste et en tout cas avoir des gros papiers à écrire. Et elle est super contente d'être envoyée en reportage. Et puis elle arrive là, sa vie change, je sais pas quoi. Et puis elle arrête tout pour faire un blog sur le prince, quand même. Enfin,
bah, c'est ça,
à
le
la
truc
fin, sur sa vie de princesse. Comment ça s'appelle? Moldavia, je crois. Non.
Belgravia.
Aldovia. Ou Jirgovia.
Mais d'ailleurs, j'ai lu un article sur un blog d'une blogueuse montréalaise et qui a adapté le test de Bechdel au film de Noël. C'est un test que tu dois faire passer à chaque film pour voir en gros si pour que un film passe le test de Bechdel, il faut que les femmes aient des prénoms, que les personnages femmes aient des prénoms. Il faut, il me semble que il y a des scènes où elles discutent, où il n'y a pas d'autres hommes, mm. et qu'elles discutent entre elles de quelque chose qui n'est pas lié à leur love interest, à leurs hommes et tout. Et en fait...
Pendant un certain nombre de minutes, il me semble aussi.
Oui, il me semble que c'est ça. Et en fait, je crois que tu as 40% des films qui ne le passent pas.
C'est énorme.
Enfin, c'est énorme, la proportion, de toute façon. Et donc là, elle s'appelle Eve Martel et elle a transféré ça sur les films de Noël. Et c'est hyper drôle et c'est vraiment... est-ce que la protagoniste est une businesswoman à qui on reproche de passer trop de temps dans sa carrière? Est-ce qu'elle va se rendre compte que la vraie vie, c'est d'avoir des enfants? Est-ce qu'elle va retourner dans son pays natal ou je sais pas quoi? Et en fait, tu vois vraiment que c'est problématique. C'est des contes qui sont faits pour montrer que la vraie vie, c'est pas d'avoir une
carrière. C'est des schémas qui reviennent tout le temps. Mais comme on avait dans les dessins animés avec Blanche-Neige, avec Cendrillon, c'est le schéma type, c'était la princesse égarée dont la vie commence que quand elle rencontre son prince charmant. Et après, elle peut devenir quelqu'un, même si on saura jamais ce qu'elle devient. Et là, dans les...
Oui,
les...
c'est vrai, c'est que ça s'arrête.
Ouais. Ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Et bah ça, tu sais pas à quel moment elle lui jette des trucs à la tronche. Enfin, tu sais pas ce qui se passe après dans leur vie de couple et dans son épanouissement. Et là, c'est la même chose, en fait. Toutes les meufs, enfin, dans je sais pas combien de pourcentage des films de Noël, elles ont un truc, hein, elles ont une vie, mais leur vraie vie commencera du moment qu'elles rencontreront l'homme qui leur fera découvrir la famille, l'amour, tous ces trucs. En fait, tu rajoutes là-dessus quelques flocons de Noël et...
Oui, comme si tu devenais quelqu'un à partir du moment où tu étais en couple, où tu étais mariée, où tu fondais une famille. Et il n'y a pas beaucoup de Disney où l'héroïne existe par elle-même.
Rebelle.
Oui, Rebelle et Vaiana. Et Vaiana aussi. Oui,
Vaiana,
elle est indépendante. Oui, elle est géniale.
Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas grandi avec ces héroïnes-là.
C'est la nouvelle génération.
C'est ça, tu vois. Et je pense que du coup, c'est aussi pour ça qu'on est un peu sensible à ce genre de choses. Et surtout, c'est fou de voir à quel point le casting est blanc, quoi. Enfin, c'est un truc qui me choque aussi. Et il y a des protagonistes hyper secondaires en arrière-plan qui sont noirs.
Pour avoir un quota.
Ouais, voilà. Enfin, pour faire genre, on est inclusif, tu vois.
Ça.
Et ouais, c'est assez terrible. Et du coup, je me demandais à qui s'adressent ces téléfilms, à votre avis.
Bah, aux femmes, déjà.
Ouais, aux femmes, clairement.
C'est clair que c'est... Il me semble que Hallmark, c'est des femmes autour de la 40, 30, 50 ans, un truc comme ça, il me semble. Je ne donne que des informations qui ne sont pas du tout exactes. Enfin, complètement approximatives.
La précision.
La journaliste. Mais oui, c'est aux femmes. Enfin, c'est...
Puis j'ai l'impression que c'est un peu... en France, c'est notamment sur M6 que ça passe.
Et TF1.
Et TF1. Et du coup, ça passe l'après-midi. Donc c'est des femmes qui restent à la maison, en fait. Une sorte de... Ouais, de
mais femme au foyer.
Femme au foyer.
C'est ça. Et puis, mais après, ce qui est plus problématique, c'est que nous, tu vois, là, on en discute, on a le recul, on sait que c'est pas vraiment ça la vie, même si ça contribue à tous les stéréotypes sociétaux qui nous font quand même un peu souffrir.
Ouais.
Donc, on sait, on a ce recul-là. Donc, on peut savourer en se disant, c'est quand même cool sous mon plaid. Comme tu disais, sauf que l'après-midi, parce que ça passe aussi le week-end, t'as des ados, t'as des petites filles qui vont regarder ça et un peu comme les contes et qui vont s'identifier et qui, enfin moi personnellement, j'ai mis longtemps à arrêter de me dire que je serais arrivée quand j'aurai un mec et des enfants. Et pourtant, je suis féministe et mon engagement il date pas d'il y a 3 ans, mais
oui, parce que tout ce que tu regardes te forme, en fait.
Exactement. Donc, je me dis...
Oui, c'est dur de se détacher de ça. Hein. C'est un lavage de cerveau qu'on subit depuis toujours. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que oui. Hein, ce qui me concerne, c'est dur. On le sait, on a du recul parce que c'est des questions sur lesquelles, nous, on réfléchit. Et même, parfois, c'est dur. Une fois qu'on a ouvert cette porte, en fait, du féminisme, on recalcule tout... On remet tout à zéro, on réfléchit à tous les petits détails. Et ouais, comme tu dis, on regarde les téléfilms comme ça, en fascination, malsaine ou pas malsaine d'ailleurs, tout en se disant quand même, je sais pas toi, mais oh ouais, quand même, ça serait bien que j'ai un mec et tout, ça serait cool. C'est quand même dur de s'en détacher. On peut pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et pour les petites filles, ouais, je trouve que c'est encore plus embêtant. Et il y a ce truc. Du coup, elle va se dire qu'elle devrait avoir un amoureux. Et vous savez, c'est comme ce truc un peu gênant où tu te rends compte, je sais pas, t'as une nièce, une petite sœur dans ta famille, et t'entends un parent dire « Et t'as un petit amoureux à l'école ?» Et comme si c'était super important. Et du coup, ça met la question sur le tapis, mais d'une façon pas cool, je trouve.
Ouais, ça commence dès l'enfance, finalement. Et en fait, ces téléfilms de Noël sont écrits par des hommes. Sont réalisés par des hommes. Et ça, c'est un truc qui est flagrant, où vraiment, à chaque fois, c'est des mecs.
Comme les contes.
Ouais, c'est ça. C'est du lavage de cerveau par le patriarcat.
Yeah ! Joyeux Noël !
Mais du coup, est-ce que vous trouvez ça quand même plus difficile de. Maintenant que vous me disiez que vous avez toutes ouvert la porte du féminisme, c'est plus difficile maintenant de regarder des films de Noël où vous arrivez à switcher en mode. Aujourd'hui, pendant ces 1h30, là, je mets mon féminisme de côté et j'arrive à rentrer dedans. Ou il y a une remise en question tout le long du film.
Moi, je pense que c'est pas trop la vie de toutes, mais j'ai vraiment ce truc de film bac à cerveau. Donc je m'explique, c'est-à-dire que je prends mon cerveau, je le mets dans un bac à côté de moi et je peux regarder une merde. Donc je peux regarder.
Donc t'as un switch,
J'ai un vrai switch complètement. Parce qu'en fait, sinon, je crois que je ne regarde plus rien. Si je dois activer vraiment le côté « Ah oh putain, j'ai envie de cramer des bagnoles », je peux plus rien voir, je peux plus rien écouter, je peux plus rien lire, à part que des trucs hyper sélectifs que j'aurais choisis. Et en même temps, je me couperais de plein de trucs qui me font du bien malgré tout, en fait. Tout en étant féministe et consciente de ce qu'ils me montrent, j'ai besoin de mettre mon cerveau dans un bac pour regarder de temps en temps des conneries comme ça, en fait.
Toi, Anaïs, ouais. Tu disais que c'était plus dur ?
C'est un peu plus dur. Ça va pas m'empêcher d'en regarder. Et c'est vrai qu'avant que tu l'aies vu, tu sais pas non plus comment ça va se passer. Donc t'espères toujours un peu déjà redécouvrir un nouveau shift du téléfilm de Noël. Genre
comme un date.
Ouais, tu te dis, ah, c'est marrant.
Comme un date. C'est vraiment non, mais... ça.
T'as envie de découvrir, je sais pas, un nouveau truc. Tu te dis, bon, bah, peut-être que celui-là, il sera cool. Et puis c'est nouveau. Et puis il vient de sortir. Et puis voilà. Et en fait, je regarde et je suis affligée. Mais ça va pas m'empêcher d'avoir envie d'en regarder. Mais les meilleurs.
Donc c'est de l'espoir, toi, qui te fait tenir sur les téléfilms de Noël.
Oui, l'espoir. Et puis, en fait, on parle vachement de féminisme, mais il y a aussi ce truc d'injonction à la famille qui va avec Noël et à ce que ça se passe bien pendant les fêtes, etc.
Tout à fait, ouais.
Et ça aussi, j'ai un peu une fascination un peu malsaine là-dessus, c'est-à-dire que dans les téléfilms, c'est magnifique, tout est blanc, il y a des décorations de Noël partout, chez eux, dans les villes, ils font des lait de poule, des grogs, tous ensemble, ils font des gâteaux, etc. Bon, ils s'engueulent un peu, parce que voilà, c'est une famille, mais tout a l'air un peu parfait, et c'est un peu fascinant, c'est cette espèce d'idéalisation en fait de Noël en famille.
Mais d'ailleurs, c'est ma prochaine question. En fait, pourquoi est-ce que toute l'année, on se tue à faire avancer la représentation des femmes dans les films et les séries, et au moment de Noël, tout est chamboulé et on retourne dans les années 50 ? Enfin, parce que, non mais c'est vrai, on voit beaucoup d'avancées depuis le mouvement MeToo en 2017 et tout, il y a quand même un vrai truc qui se passe, et là, au moment de Noël, on arrive à complètement retourner le truc. Je vois Netflix qui font des séries telles que Sex Education, hyper avancées, hyper pointues, même 13 Reasons Why, qui vont hyper loin sur la dénonciation de la maladie mentale, du viol, enfin de plein de choses hyper... Et en même temps, ils produisent des Hallmark Movies à côté. Du coup, c'est hyper marrant. Est-ce que vous pensez en quoi vous pensez que c'est lié à la période de Noël ? À cette fête-là en particulier, donc t'avais commencé à répondre en disant bah c'est réconfortant de se dire que ça va bien se passer avec ta famille, enfin voilà, tu te mets dans un mode un peu familial. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour vous ?
Moi, je pense qu'il y a une partie d'idéalisation dans le sens où c'est un truc que tu ne vois pas dans la vraie vie. Comme tu disais, ces familles parfaites qui font des gâteaux en chantant des trucs, c'est
ouais,
super.
Oui, c'est vrai.
Le fait de voir des Noëls blancs, tu vois, j'ai une obsession pour la neige. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de neige pendant Noël, sauf si tu habites à la montagne, un truc comme ça, tu vois.
Et encore. Je viens d'Annecy, je peux te dire qu'il n'y a plus de neige à Noël. Hein, depuis
Merci le réchauffement climatique. Donc, il y a un truc.
Un second podcast.
Avec Greta Thunberg.
Oui, c'est un peu une parenthèse enchantée, en fait. Comme tu disais, tout est beau, tout se passe bien. Ça fait du bien aussi d'arrêter de penser à... à l'actualité et de voir un monde où, là, présentement, il n'y a pas de coronavirus, où tout le monde se fait la bise, où il n'y a pas de problème qui anxiogène. Après, il faut aussi s'interroger sur pourquoi cette parenthèse enchantée a besoin d'être sexiste pour que ça marche. C'est ça.
Tout à fait.
Et ce que je voulais dire par rapport au schéma classique, c'est que Noël, c'est une célébration chrétienne qui est une religion patriarcale, en fait.
Tout à fait.
Donc, c'est, on est complètement dedans.
Ouais, c'est ça.
Et puis, c'est très américain. Enfin, non pas que les États-Unis soient un pays qui soit entièrement conservateur, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie, et notamment Hallmark, qui est le producteur, enfin... Le, je sais pas comment on dit, mais...
Ouais, il produit pour sa chaîne, en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Hallmark Channel.
Qui a quand même des valeurs assez conservatrices, et donc du coup, c'est des personnes qui ont ces idées-là, qui font ces films-là, et c'est très puritain, au final. Donc,
ouais, oui, bah, c'est
et
clair.
Et qui inonde complètement tous les autres pays qui acceptent ces films, donc voilà.
Mais c'est fou que du coup, il y a quand même TF1, M6 et W9 qui reprennent ça quand même. Enfin, c'est effectivement très américain dans l'idée, quoi. Et du coup, comment on pourrait regarder un peu ces films autrement? Comment on devrait les regarder? Par exemple, moi, je sais que j'ai tendance à les hate watch. C'est-à-dire que je vais me lancer. Il y a un moment où je me dis, j'ai envie de bitcher. C'est parti, lançons le film de Noël, le téléfilm de Noël. Et là, je regarde et je suis là, oh, c'est pas vrai. Et je râle tout du long.
Mais ça fait du bien de râler.
Mais ça me fait un bien fou de dire, je n'en peux plus que les gens regardent ça. Et en même temps, si je regardais pas, est-ce que ce serait pas du boycott? Et du coup, est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça, tu vois? Je sais pas.
Ouais, ça serait peut-être mieux, mais... Je trouve que c'est un peu dur. Enfin, je sais pas, je trouve ça difficilement réalisable. Enfin... Je sais pas, je pense qu'en fait, on a chacun nos triggers et que chacun, on a les trucs qu'on va boycotter. Moi, par exemple, j'écoute plus R. Kelly, j'écoute plus Michael Jackson, je veux dire délibérément. Après, si je suis chez quelqu'un qui met sa playlist, je dis rien. Je boycotte aussi Claude François, je regarde plus de films de Woody Allen. Mais bon, je pense qu'en réalité, je regarde plein d'autres films et je consomme aussi d'autres contenus. Je connais pas tous les gens et il est possible qu'il y ait de sombres connards et je ne suis pas du tout au courant qu'il y ait, voilà, il y en a plein et effectivement c'est ce que tu disais Manon, on a un peu c'est dur d'arrêter tout. C'est dur d'arrêter tout. Après, pour le téléfilm de Noël, moi, je suis un peu comme toi. Je regarde et puis à un moment donné, quand ça m'énerve, je dis bon, on sort le carnet, on prend note et on fait une petite story pour dire tout ce qui va pas. Comme ça, je me dis bah c'est cool. Je vais peut-être un peu ouvrir l'esprit de deux trois personnes dans mon Insta. Peut-être que je vais faire réfléchir ne serait-ce qu'une personne. Et déjà rien que ça, ça me fait du bien de me le dire en fait.
Mais t'as totalement raison. Je pense. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Il faut qu'il y ait une partie des gens. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui militent, en fait, et qui le fassent d'une manière comme ça, voilà, dans les stories Insta où tu t'expliques pourquoi c'est problématique. Après, je pense qu'on... Ouais, ce truc de « on ne peut pas être partout », pour ma part, c'est vraiment ça, en fait. C'est que je milite déjà sur tellement d'autres trucs, sur tellement d'autres sujets, que, bordel, à Noël, je veux juste regarder de la neige et manger des gâteaux avec de la cannelle. En fait, j'ai pas envie, parce que je n'en ai pas la force, parce que je suis tellement épuisée de tout tout le reste de l'année... Que ça, c'est mon plaisir coupable, en fait. Je sais que c'est mauvais, mais j'y vais quand même, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est un peu ça. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire d'ouvrir la conversation comme toi, tu le fais. Et de dire, non, mais ça, c'est ridicule. Non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, moi, j'adore et c'est mon plaisir coupable. Et en même temps, je lève les yeux au ciel, je pense, 10 fois, parce que c'est pas possible. Et en même temps, j'ai la petite goutte de larmes quand ils finissent par s'embrasser sous le gui, quoi.
Ouais.
Mais un truc, par contre, qui ne peut vraiment pas être critiqué, c'est à quel point leurs cheveux wavy sont brillants à toutes ces actrices.
Et leurs dents sont blanches aussi.
Mais c'est
leurs
incroyable.
Dents sont beaucoup trop blanches. Moi, je fais une collection de... Je compte les gens qui ont des facettes. Ça ça me fascine.
Tu comptes l'effacer.
C'est tous les acteurs américains.
C'est terrible. On dirait qu'ils ont des lavabos dans la bouche. Non, mais... c'est vraiment... Et ça me dérange. Et tu vois, dans le film avec Jonathan Bennett et Alexa Penavega, qui c'était celle qui avait joué dans Spy Kids, c'est Christmas Made to Order. Mm-hmm. Elle a des facettes, mais de l'espace, ouais. Avec un sourire, mais vraiment, qui fait 25 cm. Et c'est trop bizarre, c'est hyper gênant. Enfin, bah, c'était la partie facette
mais
de la journée.
Je suis trop d'accord, je regarde vachement aussi. Et je trouve que ce qui est encore plus, moi, ce qui me fait tiquer, c'est qu'ils tournent ça, c'est censé être dans le Connecticut, avec de la neige, Noël blanc et tout, mais tu les vois quand ils marchent dans leur putain de forêt, là, où ils sont, il est censé faire 2 degrés, en fait, ils sont en manteau ouvert, machin, parce qu'en fait, ils sont pas du tout dans le Connecticut.
Ils sont à Los Angeles, dans un studio.
Avec des faux sapins. Et par terre, il y a de la fausse neige ou carrément des espèces de tissus
en
blancs.
En polyester, ouais, agrafé, tu sais, par des pauvres stagiaires.
Mais c'est terrible, et c'est vraiment ça, et on nous ment.
Complètement, mais bien sûr qu'on nous ment. Mais en même temps, t'y crois, en fait, tu te laisses avoir. Hein.
C'est trop bien.
Et est-ce que vous auriez des exemples de téléfilms non sexistes à regarder?
Alors, il y en a un.
Waouh, wow. J'ai eu peur qu'on ait rien du tout.
Un seul.
Non, j'en avais vu un en 2018 et qui est repassé cette année. La honte, je les regarde tous. Et ça s'appelle Un Noël entre filles. Oui. Et en fait, voilà.
Ah ouais, avec les trois meufs.
Oui,
ouais,
et
ouais.
En fait, elles ont toutes des enfants. Elles étaient, enfin, le synopsis, vite fait, c'est trois copines d'enfance qui se retrouvent vers 40-45 ans. À un moment un peu charnière, une qui se fait virer de son taf, une autre qui divorce parce que son mari l'a trompée, blabla. Et en fait, elles vont monter un projet toutes les trois. Et ça ne tourne pas qu'autour des mecs. Et surtout, il y en a une qui rencontre un mec qui, et elle, c'est une fille qui a vachement réussi dans sa carrière. Et le mec qu'elle rencontre, et ben, il est en admiration. Enfin, il va pas trouver qu'il faut qu'elle quitte son taf. Quoi. Et je l'ai trouvé pas mal.
Ouais, voilà. Je suis d'accord. Moi, c'était le seul que j'allais citer aussi, tu vois, dans toute la liste.
Donc j'en ai un.
Ouais. Ah bah,
un pour quatre. Je le connaissais pas. Donc
est-ce que t'en
as
un, Anaïs?
Non, j'en ai pas. Pour moi, il y a rien qui va. Non, moi, j'ai rien noté de notable, de bien, quoi. Mais du coup, je vais regarder celui dont vous parlez.
Ouais, après, ne t'attends pas à un anti-sexisme machin, hein, non plus. On n'en est pas là, hein, mais.
Mais c'est juste moins sexiste que les autres et un peu plus. Enfin, un peu plus. Ça passe un peu plus le test de Bechdel, quoi.
Non, mais ouais. C'est intéressant. Il faut qu'on le regarde. Il faut que je le regarde.
Prends ton bac à cerveau quand même au cas où.
Ton bac à cerveau.
Je le prends, t'inquiète.
Moi, j'avais noté, j'ose espérer qu'il ne sera pas sexiste. C'est Happiest Season dont on a parlé tout à l'heure avec Kristen Stewart sur le téléfilm de Noël avec un couple lesbien au centre de l'histoire. Voilà, avec toujours un petit peu l'écueil du coming out. Mais c'est une femme qui réalise, c'est Cléa Duval. Donc je me dis, allez,
essayons.
Yes,
on y croit, on
peut-être.
Pas... Vraiment, j'ai hâte de le voir. Il y en avait un qui était un peu moins pire dans ce que j'avais vu. C'était Broadcast Christmas avec Dean Cain et Melissa Joan Hart. Où en fait, bon, moi, je suis obligée de spoiler un peu, mais
vas-y.
Il reconnaît que lui a un peu volé un taf à un moment donné. En gros, il l'a eu parce que son père l'a pistonné. Et voilà. Donc. On aime bien le mec qui reconnaît ses fautes et qui lui dit « Non, mais en fait, t'es extraordinaire, t'es une super présentatrice, c'était toi qui devais avoir le boulot. » Mais alors, ce qui m'énerve, c'est qu'au lieu du coup de lui refiler le taf et lui dire « C'est bon, c'est le tien », et ben finalement, ils présentent tous les deux l'émission à la fin.
Ah ouais.
On y était presque.
On y était presque.
Ouais,
ça.
On était pas loin, mais bon, on est qu'en 2020. Et sinon, 2021, peut-être que ça va changer. J'y crois pas du tout.
Mais par contre, ce que Netflix fait plutôt pas mal, c'est les séries de Noël. Moi, j'avais vachement aimé Home for Christmas la série norvégienne, qui est, bon, c'est un peu le même mode que Holiday, sauf que c'est moins, c'est moins kitsch. C'est une jeune femme qui norvégienne du coup qui est toute seule à Noël et qui va essayer de rencontrer de trouver un mec pour Noël, enfin pour l'amener sa famille, et c'est assez touchant, enfin vraiment J'ai bien aimé. Et pour une fois, elle s'acoquine d'un... elle doit avoir 30 ans, d'un jeune qu'on a 10 de moins. Et
ah
c'est quand même, et c'est
ah, ça
pas,
change un peu.
Et elle n'est pas du tout comme, au contraire, de dans The Holiday, où la tante, elle est complètement dans un stéréotype ouais. de la cougar qui est complètement culpabilisée pour sa sexualité. Enfin, c'est affligeant. Là, pas du tout. Juste, bah, elle l'aime bien. Et en fait, bah, c'est trop cool, quoi. Et il y a
trop
aussi...
bien.
Dash and Lily que
ah oui, j'allais en sorties. Parler. J'allais en parler, c'est ouais, c'est pas mal ça.
J'ai pas encore vu.
Ça se passe pas exactement comme on pense que ça va se passer.
Mm-hmm. Oh bah dis donc, ça c'est un secret système.
Pas tout à fait non. C'est pas un truc de ouf non plus hein, mais vas-y, dis ce que tu voulais dire.
Bah, je trouvais ça effectivement, c'est aussi autour de l'amour et tout, mais je sais pas, je trouve ça.
Donc c'est une série sur Netflix en ce moment.
C'est une série sur Netflix exactement
et ça parle de quoi?
C'est une jeune fille de 17 ans qui, en gros, laisse un petit carnet dans une librairie qu'elle adore avec des indices pour un mec voilà, qu'elle imagine. Et en fait, il y a un jeune homme qui trouve le carnet et qui commence à suivre les indices. Et en fait, il communique par le biais de ce carnet qui se laisse à des endroits...
C'est mignon.
Ouais, c'est très mignon.
C'est très mignon, oui.
Et il y a un moment dans le film... dans la série où elle dit elle parle du fait que on dit toujours aux filles qui aiment bien châtie bien, en gros que si un mec les embête en fait c'est parce qu'il les aime bien. Et elle dit non, j'en ai marre qu'on dise qu'on apprenne aux petites filles qu'il faut qu'elles tolèrent les méchancetés des garçons. Et bon, il y a plein de choses, hein, c'est 2 minutes dans une série de 8 heures, mais j'avais trouvé ça pas mal qu'elle dise un truc comme ça.
Ouais.
Et c'est un couple mixte aussi. Enfin, c'est l'héroïne, elle est asio-américaine, elle est japonaise-américaine, je crois. Et lui, il est blanc, donc ça...
Ça change un peu.
Ouais, ça change un peu.
Ah bah tant mieux. Mmh. Bon, trop bien.
Ça change un peu, mais on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore.
Non, clairement pas, on se contente.
On se contente de peu quand même, hein. C'est chaud. Hein.
Ouais, mais c'est bien aussi de montrer les petites évolutions.
Les petites évolutions,
tu vois,
ouais.
Tu te dis, il y a espoir.
Et c'est on y croit.
Et comme on est dans un podcast qui s'appelle Affiché, j'ai préparé pour vous mon affiche idéale de téléfilm de Noël avec une réalisatrice, un scénariste et un casting idéal. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à compléter mon affiche. Moi, en réalisatrice, je verrais bien Sofia Coppola parce que je me dis ça garde un filtre un peu nostalgique, un peu mélancolique, mais du coup, elle changerait un peu le truc et ça finirait bien.
Et puis il y aurait forcément plein de gâteaux vachement jolis
ouais,
à voir.
Ouais, tu vois, ouais, des super d'accord. gâteaux, elle ferait un super décor, enfin ouais, ouais, elle aurait super...
Mais du coup, ça va être Noël au Château Marmont ou pas?
Ouais. Exactement.
Tout le monde dépressif.
Ouais.
En scénariste, alors j'ai pris un homme, mais c'est Yann Gonzalez, alors je sais pas si vous le connaissez, mais il a fait notamment les films Les Rencontres d'après-minuit et Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis, qui était super parce qu'en fait il met en scène des gens qui n'ont pas besoin de se définir pour s'aimer. Donc voilà, c'est des gens qui sont à la base pansexuels. Enfin, je l'avais interviewé pour au festival de Deauville, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Et en fait il dit qu'il écrit des personnages de cinéma qui sont pansexuels, donc en fait il peut tout leur arriver. Et je me dis ça serait des histoires d'amour où tu sais pas ce qui va se passer et t'as envie d'être accroché. Et en casting, voilà, je verrais bien Rebel Wilson, voilà, une femme grosse, et elle serait ni drôle et son poids serait pas l'axe narratif principal.
Et est-ce qu'elle aurait le droit à avoir une histoire d'amour sans que ce soit un malentendu et sans que ce soit caché?
Exactement.
Oh, wow.
Et je me dis peut-être c'est avec Hunter Schaefer, qui est l'actrice trans d'Euphoria. Voilà.
Je te suis, Alix.
Eh bah, écoute, mais le problème, c'est que Rebel Wilson, elle est plus grosse. Elle a perdu 1 milliard de kilos.
Ah ouais.
Elle est... En fait, elle s'est fait vortexer par Hollywood, qui, en gros, lui a signifié que pour avoir des rôles plus dramatiques et plus mainstream, il fallait qu'elle maigrisse. Et donc, maintenant, elle s'auto-appelle plus Fat Amy, mais Fit Amy. No joke. Et elle est pas voilà, elle est pas ultra mince, je sais pas jusqu'où elle va aller, c'est aussi son chemin. Et voilà, après on connaît pas à 100% de la vie des gens, elle a peut-être des soucis de santé, etc. mais voilà, elle est plus grosse.
Dommage.
Donc moi je propose Aya Nakamura à la place.
Ah ouais,
dans, en héroïne de notre
ah non, ce
de
serait
Noël.
Du génie.
De ouf.
Ah du génie, avec que des musiques de Noël remixées par Aya Nakamura.
Oui, on fait ça.
Non mais ce serait
incroyable. Elle joue dedans et elle fait la BO.
Ok, ouais. Ah ouais, non, mais
c'est
très bien.
Et il y a un caméo de Rihanna aussi.
Oh, bien sûr. C'est un téléfilm de Noël à gros budget, donc, qu'on va s'atteler à monter dans les prochaines semaines. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé au podcast. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et puis merci aux auditeurs et auditrices qui ont écouté jusqu'ici le premier épisode du nouveau podcast Mademoiselle Affichée. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous laisser un petit commentaire et à en parler autour de vous. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Salut. Trop cool. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.